Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA 107.5, 101.7 et sur internet www.rdwa.fr. Salut Benoît, salut Tim.
Salut.
Salut à toi.
Vous êtes l'association Les Jardins Nourriciers. Enfin, pas que vous.
Tout à fait. On représente donc cette association qui existe depuis plusieurs années maintenant. Une idée assez incroyable, c'est de faire du maraîchage, mais sur un autre mode que des gens qui travaillent tout seuls dans leur coin. Et donc, c'est un maraîchage associatif qui implique la participation des bénévoles pour faire gérer l'association déjà et puis pour aider aux travaux de culture, aux travaux des champs. L'autre point particulier, c'est qu'elle se base sur du commoda. Les terrains sont, prêtés. Là, c'est un peu plus technique, Tim est un peu plus au courant que moi, mais c'est des terrains qui ne sont plus utilisés par des gens et qui les prêtent à l'association pour qu'ils servent à nouveau et que, sans qu'il y ait non plus d'achat, d'échange économique classique. Donc, c'est une espèce de bail, en fait, mais signé pour une durée, d'ailleurs, qui est déterminée, qui est renouvelée, mais qui appelle pas d'échange monétaire derrière.
Évidemment, vous avez quand même une sécurité de garder les terrains.
Ouais, ça s'appelle des commodas, des prêts à usage. Ouais. C'est une forme très légère de contrat, en fait, de mise à disposition.
Et ces gens, d'habitude, on pense que les gens qui ont des terrains ne veulent pas les laisser comme ça, gratuitement. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé qu'on était vraiment en recherche de terrains inutilisés. Et le fait est qu'il y en a pas mal. Souvent, les propriétaires, ils peuvent être effrayés par tout ce qui est bail agricole parce qu'il y a des longues durées. Donc nous, le fait de venir avec une demande de commoda sur 3 ans, par exemple, ça facilite quand même pas mal cette demande. Sachant que nous aussi, on est en capacité de s'adapter si quelqu'un devait nous reprendre une parcelle. Qu'un maraîcher qui s'installe, il n'a pas nécessairement envie de se projeter sur 3 ans et être dans le flou de sa capacité à rester sur les terrains.
Et pourquoi vous, c'est facile ?
C'est pas nécessairement plus facile, mais vu qu'on a déjà un ensemble de 9 terrains, on s'adapte un petit peu à ça en se disant si demain quelqu'un devait vraiment vouloir récupérer un terrain, on s'adapterait.
La difficulté, c'est qu'après, c'est des terrains peut-être un peu moins pratiques pour un peu moins grand et uniforme. C'est plusieurs petites parcelles qu'un maraîcher tout seul aurait peut-être plus de mal à utiliser parce que ça multiplie un peu les déplacements d'un terrain à l'autre. On a un côté un peu plus fragmenté qu'une installation maraîchère classique en contrepartie.
Donc vous êtes plus adaptable. Pour continuer un peu sur cette historique, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi c'est venu ? Quelle demande il y avait ? Est-ce que c'était la vôtre de travailler comme maraîcher ou...
Si tu veux, je me lance. Mais...
Oui, parce que moi, ça fait que 2 ans que je suis dans l'association.
Donc historiquement, l'asso, elle date de 2016 qu'on l'a créée. Et il y avait vraiment cette idée, en effet, de mutualiser déjà l'outil de production. Parce qu'il y a une grosse nuance entre s'installer tout seul à son compte ou se dire, tiens, on crée un projet associatif lié au maraîchage. Il y avait vraiment cette vocation aussi de mettre en commun tout ce qui était outil de production sur un territoire où il y a un besoin de production alimentaire. Et ça, c'est ce qui a un petit peu été la genèse des jardins nourriciers, se dire comment est-ce qu'on va jardiner en mutualisant l'emploi que ça allait créer, tout ce qui était outil de travail et comment on allait impliquer les habitants d'un territoire dans le projet de production maraîchère.
Et c'est forcément des habitants du territoire de là où vous êtes implanté ou en fait n'importe qui peut venir
N'importe qui peut venir et là pour l'instant c'est surtout dans la vallée de Quin que les terrains ont été trouvés et puis qu'historiquement une partie des salariés étaient de là-bas mais on est beaucoup à venir de Die, voire d'un peu plus loin. Il y avait même qu'il n'y avait pas quelqu'un de Barsac qui voulait venir à un moment ou de...
Si, on a eu des adhérents de loin mais...
Après, le problème, c'est de pouvoir venir assez régulièrement. L'intérêt, c'est de pouvoir venir assez régulièrement aider. Donc, c'est vrai que si elle rajoute 2 heures de bagnole, l'intérêt est quand même un peu plus limité, quoi. Mais c'est ouvert à tous les gens. Il y a aussi les gens qui sont de passage, qui deviennent adhérents parce qu'ils achètent des légumes l'été et qui ne viennent pas forcément régulièrement aider, mais qui continuent de soutenir l'association.
Que viennent chercher les gens ?
Je pense que c'est assez différent, justement, selon leur implication. Moi, évidemment, au départ, il y a l'idée d'avoir des bons légumes qui sont produits selon des méthodes. Donc, on est nature et progrès, c'est donc encore mieux que le bio. Et puis, avec une problématique sociale et locale qui est plus forte. Donc, il y a déjà ça. Il y a quand même l'idée de bien boire, bien manger. C'est quand même, ça rassemble pas mal les gens. Il y a aussi des événements festifs au fur et à mesure de l'année. Le côté social collectif du projet, moi, je trouvais très fort. Moi, j'ai pas de jardin, j'ai pas eu même pas envie d'essayer d'en avoir à titre personnel. Ça demande beaucoup de temps, puis des compétences que j'ai pas forcément. Et là, tout de suite, on peut aider, être efficace, voir comment ça évolue tout au long de l'année. Et en même temps, il y a toujours quelqu'un pour remplacer quand on part et pour aider donc à ce côté collectif. Puis ce côté un peu moins marchand, en tout cas, essayer d'avoir des relations sociales et professionnelles. Il y en a qui, voilà, il y a 2 salariés dans l'association, donc c'est la principale source de revenus. Mais en même temps, ça se mélange avec des gens qui font ça pour autre chose que l'économie.
Ouais, moi, je dirais qu'on a vu tout un tas de profils différents. Entre ceux qui viennent pour profiter de notre système de points. Donc, quand tu viens jardiner, on te crédite des points et c'est ce qui te permet ensuite d'avoir accès aux légumes à un prix réduit. Donc, on a vraiment ce public-là aussi, des personnes qui n'ont pas nécessairement un emploi ou qui ont du temps de dispo, qui viennent jardiner, mais pour une journée jardiner avec nous, on leur crédite 15 euros de légumes. Donc, il y a cette entrée en matière-là. On a beaucoup observé qu'il y avait des gens qui venaient pour le côté lien social, un peu sortir de l'isolement, faire une activité associative en collectif. Ça, on l'observe beaucoup. Il y a aussi un public de gens qui veulent venir se former, plutôt à la pratique maraîchère, nature et progrès, à quelle date on va semer ceci, à quelle date on va replanter tel légume. C'est même assez rigolo à voir qu'il y en a qui, en fait, viennent beaucoup chez nous, mais qui ont un potager à côté. Et en fait, ils s'inspirent beaucoup de notre plan de culture, ils prennent les plans chez nous, et en fait, ils copient un petit peu ce qu'on fait dans les jardins, mais chez eux, en plus.
Vous êtes aussi éducateur populaire.
Oui, carrément, il y a eu des transmissions. Il y a eu aussi la participation de cette année, c'était d'ailleurs un peu l'année dernière, mais cette année sont venus pas mal des étudiants du CFPPA qui sont venus se former, du coup, qui en échange sont venus à 15-20, à plusieurs journées pour aider. Parce que faut savoir que du coup, c'est une forme de maraîchage qui utilise évidemment aucun produit chimique, qui utilise très peu de machines, qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Du coup, étendre du fumier, du compost, planter. Donc là-dessus, il y a eu des échanges à la fois pédagogiques pour leur montrer un modèle d'agriculture. Et puis eux sont venus en renfort aider à participer au chantier ce printemps.
Et peut-être pour terminer là-dessus, en quoi c'est différent d'une AMAP ?
Si tu veux, une AMAP, ça serait juste l'asso qui mutualiserait la distribution de légumes. Donc tu aurais tout un ensemble de producteurs qui seraient maraîchers. Et la MAP, c'est l'association qui va acheter ses productions pour les redistribuer à des adhérents. Nous, ce serait presque plus comme une AMAP qui aurait décidé de salarier des maraîchers. Donc qui encadrent les chantiers, qui font les plans de culture, qui supervisent le matos.
Oui, puis il y a l'implication des bénévoles dans les champs, quoi. Alors qu'une AMAP, c'est l'agriculteur qui fait tout seul. Et après, le circuit de vente est collectivisé. Ouais. Et assez rendu de manière associative, mais lui continue à être tout seul au champ toute la journée, à assumer tous les stress, la gestion toute l'année des plantations. Quoi.
Mais après, pour un client, on devient adhérent, oui, en vous achetant des légumes, mais on peut n'avoir aucune participation au jardin, à sa création, à sa tenue.
Alors ça, depuis un an quand même, on avait revu un tout petit peu les statuts. On demande à minima une participation par an de la part de nos adhérents dans une activité de jardinage ou en tout cas ce qui est lié à la vie associative. Mais en effet, il y a des grosses disparités. Il y a des gens qui vont venir une fois assez symboliquement, il y en a d'autres qui viennent jardiner toutes les semaines.
Mais ça a de l'intérêt pour vous quand même de vendre à l'extérieur, du coup, à des gens qui, a priori, font moyennement partie de l'association ?
C'est justement un des aspects qui nous permet de vivre et de survivre, parce qu'on est une asso qui est peu subventionnée, donc on dépend beaucoup de la vente de nos légumes. Donc si on vendait l'ensemble de nos légumes avec notre système de points, ce serait peut-être encore plus difficile à viabiliser. Donc l'idée qu'il y ait tout un tas d'adhérents qui ne disposent pas d'un immense stock de points et qui viennent acheter leurs légumes en euros, c'est ce qui nous permet à nous d'atteindre, en tout cas de poursuivre notre objectif d'atteindre l'équilibre. Ouais.
En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de contraintes et chacun s'investit. Il faut de tout, quoi. Il faut des gens aussi qui aident pour aider à arriver avec la main d'œuvre, et d'autres qui viennent aussi aider à vendre, à soutenir l'association, à en parler.
Alors, tu nous disais 2 salariés aujourd'hui. Combien il vous faut à peu près de bénévoles pour tenir sur le fonctionnement ?
Moi, perso, j'ai toujours vu la participation de nos adhérents, ce qui n'est pas vraiment du bénévolat, puisqu'il y a ce système de points qui valorise leur présence dans les jardins.
C'est vrai.
Je vois plutôt ça comme une forme d'opération blanche, moi. C'est-à-dire que le temps que des gens viennent participer dans les jardins, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'ils vont récupérer sous forme de légumes. Donc nous, on dépend plutôt justement de tout l'excédent de légumes qu'on produit et qui est vendu sans passer par le système de points. Je ne sais pas dire si en ayant 200 adhérents réguliers de plus, si ça nous ferait rentrer, nous, plus d'argent ou d'avoir... Certes, on aurait une plus grosse production, mais on sortirait aussi beaucoup plus de légumes pour valoriser leur présence. Donc moi, ouais. Je vois vraiment ça comme une forme d'opération blanche, un service social rendu, en fait. Les personnes viennent jardiner, ils récupèrent une part juste des légumes qu'ils ont aidé à produire.
Et donc c'est votre travail salarié qui sert à vendre à l'extérieur ?
Tout à fait.
Ouais, et puis encadrer les chantiers, avoir le suivi au quotidien, parce que les bénévoles ont... Les adhérents, on n'a pas la même continuité d'implication et puis l'expertise, quoi. De savoir au jour le jour réagir, changer les plans, là, selon le temps, s'adapter à la météo, etc. Là-dessus, il faut les deux, hein, c'est sûr que... Après, en termes, peut-être que tu demandais un nombre d'adhérents quand même pour avoir une idée. On est autour de 200 adhérents à jour de leur cotisation pour l'année dernière.
Ouais.
Et en termes de personnes, combien il y a de personnes sur les chantiers? On est entre 5 et 10 en général à chaque chantier.
Oui, chaque année, il y a une cinquantaine, soixantaine d'adhérents qui font partie des jardiniers sur environ 200 adhérents à jour de cotisation chaque année.
C'est très intéressant cette présentation-là pour comprendre qu'il y a plus une démarche sociale et d'espace social, ce que vous avez dit, voire de formation, puisque c'est ce temps-là qui est mis à disposition par des salariés. Plutôt que de se nourrir, finalement, même si on fait un peu les deux.
C'est tout l'enjeu des jardins nourriciers. Ouais. C'est de venir concilier production légumière, travail sur la biodiversité, sur les semences, sur la gestion de l'eau, sur le travail de la terre, mais aussi tout ce qui est transmission et implication des gens dans la production de leur propre alimentation.
Ouais. Tu parlais de gestion de l'eau.
La gestion de l'eau, nous, ce qui est un petit peu particulier, c'est le fait qu'on soit sur 9 parcelles, d'une part. Donc on a aussi 9 types de sols différents à découvrir, à travailler, tout comme on a 9 approches de l'irrigation différentes. Donc en fonction de où on est, on va plutôt jouer sur du gravitaire, sur de l'eau pluviale. Et on a aussi des terrains où on est dépendant de la ressource type rivière. Et du coup, on observe, comme tout le monde, que ça ne va pas en s'améliorant, hein, la ressource hydrique. Donc on essaye de s'en faire acteur, nous aussi, hein, de mettre en œuvre des pratiques qui favorisent des sols vivants, avec vraiment des couverts végétaux assez importants, pour éviter tout ce qui est évaporation de l'eau, déjà. Mais après, ça dépend vraiment de chaque terrain. On a des terrains qui sont particulièrement plats, donc tout ce qui est eau pluviale, c'est quand même difficile à gérer de la récupération sur du ruissellement ou autre. Et on essaye, en fonction des communes, en fonction des jardins, de s'adapter à la problématique telle qu'elle se présente à nous.
Et Tim, juste, je te tiens un peu, tu es un peu à l'origine de ce truc-là. Est-ce que tu t'es dit à un moment, dans cette vallée de Quin, il y a sans doute un besoin de se retrouver, de se rassembler, de mener des activités communes? Et pourquoi cette activité-là?
Bah ça, c'est un constat qu'on peut faire à l'échelle du Diwa tout entier. Il n'y a pas une production légumière suffisante pour subvenir aux besoins du territoire. Si je dis pas trop de bêtises, on avait participé à une table ronde sur la souveraineté alimentaire dans la vallée de la Drôme. Et c'était plus de 90% des légumes consommés sur ce territoire qui sont importés, en fait. Donc si tu veux, c'est une problématique qui est assez réelle. On a tous besoin de manger des légumes et on fait le constat qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont produits. Par contre, il y avait vraiment cet enjeu de se dire, est-ce que le modèle d'installation individuelle, c'est quelque chose qui nous correspond ? Est-ce qu'on avait envie que tout l'outil de production nous soit nominatif, nous soit en personne propre? C'était pas trop l'idée. Et du coup, en effet, sur ce territoire, on avait fait le constat, il y a des terrains disponibles. Il y a des gens qui aimeraient participer aux activités de maraîchage si on leur proposait. Et c'est ce qui a un petit peu lancé le projet.
Et puis ça répond il y a cette fameuse phrase que l'écologie sans le social, c'est du jardinage, quoi.
Ouais, ça tombe bien.
Là, il y a vraiment cette préoccupation de pas faire que, d'avoir les préoccupations écologiques et que ça soit au niveau de l'alimentation, de la gestion de l'eau et tout ça, mais que ça doit aussi être en lien avec ce qui se passe dans la région, avec les besoins des gens, avec leurs possibilités d'implication, à créer des échanges qui soient festifs, professionnels, qui nourrissent dans tous les sens du terme, en fait, culturellement, biologiquement.
Vous êtes ici pour parler d'une campagne de financement participatif.
En effet. Qui a commencé donc, il y a quelques jours maintenant, Bah, parce que l'association dépend en partie de subventions. Il y a eu, et on est un peu entre deux cycles. Moi, j'étais pas là, en gros, sur le cycle qui vient de se terminer, où il y avait eu une intégration dans des projets leaders qui avait amené un certain nombre de subventions qui ont permis à l'association de bien se développer pendant 3-4 ans. Et puis là, il y a le renouvellement et c'est pas évident parce qu'on n'est pas considéré comme faisant partie du milieu agricole. Donc, on n'a le droit à aucune des aides qui sont réservées aux agriculteurs du fait du statut associatif notamment. Et le temps de reconstruire avec le nouveau CA dont je fais partie depuis l'année dernière, de reconstruire en gros sur le long terme les structures et le devenir de l'association, ben, on a eu un peu une espèce de sensation qu'il fallait faire un appel aux gens pour pérenniser le projet et le maintenir dans quelle que soit son actualité. Donc on l'a lancé il y a quelques jours, vous aurez des infos sur le site de l'association lesjardinsnourriciers.com. On fait à ce propos une projection samedi soir, là, donc ça sera le 14 mai, à partir d'un documentaire consacré aux difficultés du maraîchage. Alors c'est pas directement lié au jardin nourricier, mais c'est un film qui a été tourné chez des maraîchers dans les Landes l'année dernière. Donc la réalisatrice sera là aussi pour en parler. Bon, après, c'est de manière classique un appel à dons. Hein. On détaille un peu plus, mais en gros, c'est les problématiques qu'on a déjà évoquées là en début d'émission. Elles sont résumées sur la page Hello Asso dédiée à cet appel.
Ça fait deux fois que tu nous dis les difficultés des maraîchers. Et là, il y a même à travers un film, c'est une profession dont on ne sait pas en fait qu'elle est extrêmement compliquée. Et tu as parlé de stress et parfois de solitude. Qu'est-ce que vous...
Il y a un taux de suicide chez les agriculteurs en général, qui est énorme. Hein, mais... moi, je connais que par... je ne suis pas professionnellement dedans impliqué, mais je fais beaucoup de documentaires, j'en regarde beaucoup. Et depuis très longtemps, on en parle. Hein, c'est une profession qui est fondamentale quand même à notre survie et qui en même temps est un enjeu politique, social, économique incroyable qui a été complètement... bousculé, tourné dans tous les sens depuis, on va dire, courant depuis le XXe siècle, quoi. Avec des dérives dans un sens ou dans l'autre. Enfin, ce que disait un agriculteur, il n'y a jamais une profession à qui on a donné autant de leçons depuis 50 ans, quoi. N'importe qui fait son boulot, a des contraintes, mais l'agriculture, c'était complètement changé en 70 ans. Et est-ce qu'on a, sans apparemment humainement s'appuyer sur les gens qui la faisaient, sur les méthodes qui existaient auparavant? Donc, il faudrait une émission spéciale consacrée que pour ça. Quoi.
En tout cas, nous, on en fait bien le constat depuis les années qu'on fait du légume. C'est que le légume n'est pas facile à viabiliser, c'est sûr. Il y a énormément de légumes que si tu les faisais pour gagner un petit peu d'argent dessus, tu les intégrerais plus dans ton plan de culture.
Par exemple ?
Par exemple, rien que les salades ou les poireaux, il y a tout un tas de légumes où c'est difficile, en fait, compte tenu de toutes les étapes de culture qu'il faut mettre en œuvre. Quand tu vois les prix de vente qui sont tirés à la baisse par les productions industrielles, par tout ce que tu veux, nous on fait le constat que de manière générale, pratiquement, l'ensemble de nos productions légumières sont quasi déficitaires par rapport au temps de travail qu'elles nécessitent. Donc on essaye de s'améliorer d'une part. Après, nos pratiques, le fait de faire nos propres plans, de sélectionner des semences, ça aide pas particulièrement non plus. On pourrait avoir plus de viabilité économique en allant acheter des plants par exemple, et en ayant des plants de culture, voilà, qui nous épargneraient ce travail de semis, de soins aux plants, quoi. Mais c'est un choix aussi idéologique de notre part d'avoir le cycle de bout en bout. Et du coup, historiquement, ce qu'on a fait dans l'association, c'est qu'on fait aussi on propose des services d'aménagement de jardin et de potager. Et ça nous permet de venir équilibrer un petit peu les deux tableaux de l'association.
Vous allez à l'extérieur pour poser vos modèles ?
C'est pas nécessairement transmettre notre modèle, c'est que nos adhérents, eux qui ont des jardins chez eux, peuvent faire appel à nous en tant que jardiniers pour venir les aider à concevoir leur potager, leurs espaces jardinés, leurs vergers, planter des haies et autres. Et ça, c'est une activité qu'on facture aussi aux adhérents. Et ça nous permet d'équilibrer un petit peu l'activité maraîchère.
Vous les aidez à concevoir et à faire, enfin, même vous.
Ouais.
C'est pas juste du consulting, quoi. C'est passer des journées à commencer à aménager avec eux.
Tout à fait.
Et pour revenir sur cette campagne, alors à partir de combien on devient un heureux donateur et qu'est-ce que c'est un peu quoi les contreparties? Souvent c'est rigolo.
À partir de 1 euro, je pense que l'OASO ne permet pas moins, on a pris le parti de ne faire aucune contribution liée à l'argent. Donc qu'on donne 1 euro ou 10 000 euros, on sera remercié en tant que généreux donateur.
Vous n'avez pas fait des petits trucs rigolos
Non.
On vient chez vous et on fait un concert de légumes?
Non, bon, on s'est dit que de manière générale, dans l'asso, on ne distinguait jamais des adhérents en fonction de leurs revenus.
Ouais.
Tu viens jardiner comme l'adhésion à l'association est à prix libre. Et de la même manière, on s'est dit, est-ce qu'on va remercier davantage quelqu'un qui a les moyens de nous donner 100 euros plutôt que celui qui a 10 euros à nous donner.
Ouais, ou même 5, ou même 1.
C'est... Et on s'est dit, dans la logique de notre manière de fonctionner vis-à-vis de ça, on va remercier tout le monde de la même manière.
Après, on va profiter du lancement des ventes de la saison, là, le vendredi 3 juin, pour faire un petit événement aussi autour du crowdfunding, de ces problématiques de pérennisation de l'association et de la vente des premiers légumes. Et de compter. On n'a pas dit qu'on vendait des plants aussi.
Ouais.
Là, ça a commencé depuis un mois environ. Donc, des semis qui commencent à pousser, qui sont vendus à Die et à Sainte-Croix toutes les semaines. Et puis, on avait l'idée de faire un totem avec le nom de tous les participants dans un des jardins de l'association.
Qu'on aura sa petite statue.
Une petite statue, et surtout on a l'idée aussi d'organiser une sorte de fête, de remerciement pour tous les donateurs, pour qu'on puisse passer un moment festif ensemble dans les jardins ensuite.
Oui, hors antenne, vous parliez d'un concert, c'est plus pour le 3 juin ou pour cette fête de remerciement?
Plus le 3 juin qu'il devrait y avoir On sera en cours de mise en place.
Et on sera toujours en pleine campagne à ce moment-là, ce sera le lancement de notre premier marché d'été, normalement à Sainte-Croix. Un vendredi 3 juin, et du coup on se dit, tiens, premier marché, l'occasion de faire venir un groupe de musique ou deux, et de passer un bon moment pour faire aussi une sorte de rappel qu'on a une campagne de financement en cours. Et pour détailler ce que disait Benoît sur les distributions-ventes de nos plants de légumes, on fait ça le
mardi au local de l'écologie et quotidien, là, à Die, et les vendredis à la serre... à la pépinière à Sainte-Croix, vraiment derrière le monastère, en plein centre.
Voilà, parce que vous avez des terrains de Sainte-Croix à
Marignac.
À Marignac, ouais. Voilà, c'est ça, dans toute la vallée. On vous trouve sur les marchés de Sainte-Croix et à ce local d'écologie au quotidien, là, juste à côté de Café des Lys, dans la descente.
Dans la passage, vers la Porte Saint-Marcel.
Vers la Porte Saint-Marcel. Ouais. Voilà, c'est les deux lieux où on peut vous trouver et acheter des légumes.
Oui, alors pour tout ce qui est vente de légumes, c'est encore, on est en train de voir comment on va organiser cette saison. Par contre, dans l'immédiat, en effet, on vend les plants de légumes. Donc demain, mardi, on nous retrouvera à Écologie au quotidien de 16h30 à 16h30, 17h jusqu'à 18h30. Et le vendredi après-midi, ça pour le coup, c'est toute l'après-midi à Sainte-Croix de 14h à 18h, on ouvre les pépinières. Nous, on en profite avec nos adhérents pour faire des sessions de semis. Comme ça, on est sur le lieu de la pépinière. Et ces deux espaces qui sont ouverts aux adhérents ou aux adhérents en devenir pour venir découvrir nos petits plants de légumes.
Voilà, on peut devenir adhérent sur le moment, bien sûr, on rappelle.
Tout à fait.
Autour des légumes, on parlait du partage, de la cuisine. On fait aussi des produits transformés un peu. Alors, c'est une activité, c'est pas encore très formalisé, mais on est un peu en phase de test depuis l'année dernière. Parce que les légumes, y en a une partie qu'on ne peut pas vendre parce qu'ils sont abîmés, parce que... Ou d'un coup, il y a une grosse quantité d'oignons qui sortent, qu'il faut transformer. Donc ça permet d'échanger, des manières de cuisiner, pour vendre après des bocaux de ketchup, de pickles, de choses comme ça.
Vous êtes en train de vous faire un petit labo de transfo ?
Pour l'instant, c'est un peu dans les cuisines de chacun à chaque session. Mais là, en même temps qu'on vend les plants et les légumes après dans la saison, il y a toujours des pots à côté qui arrivent au fur et à mesure des sessions et de ce qu'on a pu faire.
Parce que ça, justement, dans les plans d'autonomie alimentaire, ça manque aussi, en fait. S'il y avait un labo de transfo, il y aurait de quoi transformer. Parce qu'effectivement, tous ces légumes un peu ratés qui ne passent pas au marché...
Ça serait un
prochain projet.
Nous on sera preneurs, s'il y a un labo qui se met à
disposition.
Vous ne
voulez pas le faire, vous?
Déjà, il faut pérenniser la structure actuelle, de voir sur l'avenir.
Qu'est-ce qu'il vous faut pour
L'appel à dons, là, il est fixé le palier à 14 000 euros. Après, on a fait il y a déjà un premier palier de 9000 euros qui serait nécessaire pour cette année, l'année prochaine. Le 14000, ça serait, il y a l'indispensable. Et puis après, ça serait pour aider à renouveler le matériel. Enfin, même pas que renouveler, quoi, mais diversifier un peu le matériel pour lequel on est très léger pour l'instant.
Donc ça correspond au montant, si tu veux, de subvention qu'on aurait dû chercher et trouver sur une année comme celle-ci, 2022. Pour équilibrer nos budgets, on aurait eu un objectif de subvention à trouver de 7-8 000 euros. Et on n'a pas nécessairement trouvé. On a trouvé des petites subventions à droite à gauche, un petit peu des soutiens des communes notamment. Mais on n'a pas réussi à trouver le projet, le soutien financier qui nous aidait à équilibrer le projet en tant
Après,
que tel.
On n'a pas eu beaucoup... Enfin, il faut le dire qu'il y a eu des... Moi, je suis administrateur que depuis 6 mois. Il y a eu beaucoup d'autres occupations. C'est pas qu'on n'a pas réussi, mais c'est qu'on n'a même pas vraiment pu. Et là, on s'y remet cette année depuis quelques mois. Et on a des espoirs que ça finisse par arriver d'ici un an. Hein, mais là, c'est l'actualité là, sur ces quelques mois qui est vraiment compliquée. Et on pense que le modèle, il va trouver d'autres soutiens. Et on a eu des super retours de plein de gens du coin, des premiers retours qu'on a eu de fondation, de gens qui donnent des dons. Ils trouvent que c'est très... C'est vraiment à soutenir et très intéressant. Mais là, il y a cette urgence-là au quotidien qui fait que...
C'était toute la question, parce que tu semblais dire tout à l'heure qu'il y avait des subventions que vous pouviez avoir, d'autres pas du tout sur la partie agricole. Donc en fait, dans quel cadre vous pouvez vous inscrire ?
Mais du coup, on est beaucoup plus sur les fondations qui ont des volets sociaux. On est aussi sur tout ce qui est environnemental. Il y en a beaucoup qui soutiennent l'utilisation de méthodes très respectueuses de l'environnement, de la diversité, des ressources en eau. Donc là-dessus, on est aussi très, très pertinent. Mais c'est aller chercher au cas par cas. On passe notre temps à parcourir les catalogues. Enfin bon, les gens qui font des recherches de subventions savent ce que c'est, hein, mais il n'y a pas ce côté un peu systémique des aides agricoles où tu es agricole, tu t'installes et tu sais que tu as le droit à temps et ça arrive de manière assez mécanique. Quoi.
Et vous n'auriez pas le droit du tout, jamais, de dire c'est un modèle de développement agricole qui ne sera jamais considéré, a priori, l'associatif ?
Alors, on est en train de voir qu'on peut avoir partie des avantages, comme par exemple l'utilisation d'eau en termes de sécheresse. Les agriculteurs ont une priorité par rapport aux piscines. Là, on est en train de voir qu'on pourrait bénéficier de ça, par exemple. Mais tout ce qui est économique, en fait, les aides, je suis pas spécialiste, hein, mais tout ce qui est lié à la PAC et qui est lié au statut d'exploitant agricole, là, comme on est associatif, évidemment, ça... On n'y a pas droit.
Et puis, sur le volet éducatif, là, il y aurait...
On va peut-être dissocier deux choses. Il y a tout ce qui est petite enfance, les écoles du territoire. Là, en effet, je pense qu'on a un petit peu cette volonté. Ça nous est arrivé déjà avec l'école de Sainte-Croix d'avoir des petites initiations au jardinage, des petites activités, notamment quand on était en lien avec l'association Val-de-Quin dans le cadre du LEADER. Ça, c'est quelque chose, je pense, avec les deux écoles qui sont bien implantées en Valais-de-Quin qu'on va se permettre de renouveler. Tout ce qui est public adulte, c'est déjà une autre démarche. Nous, historiquement, on s'était toujours dit que ce n'était pas une fin en soi que de vendre de la formation, qu'on préférait aussi, nous, déjà, acquérir des compétences dans ce qu'on fait, dans les cultures telles qu'on les mène, dans notre façon de travailler la terre ou autre, et que ça allait peut-être être une deuxième étape, ça, la formation. On ne se sentait vraiment pas à la genèse du projet de se dire « Tiens, on va essayer de développer un modèle économique qui tiendra grâce à la formation ». Puisqu'on était conscient qu'on démarrait tout juste et on a commencé tout petit sur 400 mètres carrés. Donc maintenant qu'on cultive 1,2 hectare sur 9 parcelles avec des cultures vraiment dissociées en fonction de là où elles sont, petit à petit, je pense qu'on a de plus en plus cette capacité à transmettre.
Mais après, je crois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. Hein. Enfin, je ne suis pas calé, mais de maraîchers qui se très vite font une grande partie de leurs revenus de formation qui dispense à des prix pas forcément accessibles.
Alors maraîcher, je ne sais pas, mais dans le milieu de la permaculture.
Oui, permaculture, voilà, plutôt. Ouais.
Vous allez vous agrandir encore ou pas ?
Alors, il y a des gros projets quand même. Ce n'est pas la priorité ultime de s'agrandir. On cherche plutôt à consolider ce qu'on fait. Et néanmoins, ça fait plusieurs années maintenant qu'on se projette sur le fait de venir s'installer à Die. Parce qu'on fait le constat qu'on a beaucoup d'adhérents en fait, qui font les déplacements, que ce n'est pas nécessairement facile pour tout le monde.
Puis écologiquement, c'est raté, du coup.
Écologiquement, ouais. De venir jardiner à Sainte-Croix alors qu'on habite 10, c'est pas très sensé.
Il y en a sans doute qui, même, qui arrivent, qui peuvent pas faire ça, du coup.
Voilà, il y en a qui sont tout simplement pas véhiculés ou qui trouvent pas cette solution pour venir jusqu'à nous. Donc l'idée, ce serait plutôt de maintenir ce qu'on fait dans la vallée de Quin pour les adhérents actuels, ceux qui habitent ce territoire et qui viennent jardiner avec nous. Et en même temps, on fait le constat qu'à 10, il y aurait une vraie place à prendre pour proposer notre service, enfin notre fonctionnement associatif aux habitants. Donc là, c'est en cours, on recherche un petit peu des terrains, on travaille ce futur partenariat avec la mairie, avec les acteurs locaux, pour se projeter probablement à l'horizon 2023 sur une installation, sur une première parcelle à 10.
Voilà, après, on s'arrêtera là, je pense. Après, l'idée, c'est de partager ce modèle et qu'il y en ait d'autres qui veulent le lancer ailleurs, carrément. Mmh. Mais l'idée, c'est pas de...
Vous avez un peu des demandes dans ce sens?
Ouais, on en a eu historiquement pas mal. Faut savoir que c'est un peu une base de l'association. C'était de tout développer en open source. Donc il y avait vraiment une sorte de volonté d'essaimage à terme.
Donc tous les plans, tout est dispo sur le site, c'est ça?
Tous les plans, surtout le site en tant que tel. Donc on avait réussi à se faire financer une partie du développement de notre site web qui, dans la partie back-office, gère tout ce qui est notre compta et même la double compta avec le système de points. Donc pour la valorisation des adhérents. Et ça, je pense que c'est un modèle qui gagnera à être proposé à d'autres collectifs citoyens, ouais, sur d'autres territoires. Pour l'instant, on a eu 2-3 demandes. Si, on en a même eu plusieurs de Nantes, d'Alsace, des collectifs qui nous ont trouvés au détour d'une recherche sur Internet et qui se disent « Tiens, c'est quand même bien fichu, votre petite histoire. »
Et ça s'est fait?
Et ben du coup, on a transmis au fur et à mesure ce qu'on pouvait, nos difficultés, nos expériences, ou c'est qu'on avait rencontré vraiment. Ouais, surtout, c'est du partage d'expériences pour l'instant.
On parlait donc des jardins nourriciers et de cette campagne de financement participatif avec un premier événement, le 14. On a dit le nom du film ou pas, Benoît?
Peut-être pas. Nouvelle Graine, ça s'appelle. C'est réalisé par Sophie Labruyère. Et donc, ça sera à 18h à la Forge, place du Mazel, en plein dit. Entrée à prix libre.
Est-ce qu'on a oublié quelque chose?
On peut peut-être profiter d'être là pour relancer un appel à toutes les personnes qui aimeraient soit jardiner chez elles et qui aimeraient avoir accès à des plants de qualité qui sont issus en grande partie de nos propres graines. Donc ça, on a ces deux rendez-vous pépinières chaque semaine. On peut relancer un appel à tous ceux qui aiment jardiner et qui n'aimeraient pas jardiner seuls. Donc de venir découvrir les jardins nourriciers pour faire du maraîchage quand même de grande surface avec d'autres.
Moi tu vois, j'aime pas jardiner, mais je peux aller comme ça dans un truc collectif, piocher pendant une heure, ouais, ça me va. Mais
selon ce que chacun aime faire, il y en a qui restent tranquilles pendant une heure à faire des semis, il y en a qui font des trucs plus physiques, il y en a qui discutent parce qu'on n'est pas non plus à être fliqué, à devoir être efficace pendant 3 heures. On peut prendre 5 minutes pour discuter et rencontrer. C'est un moyen de rencontrer des gens, quoi, aussi.
Ouais. On a le droit de s'appuyer sur la pioche, quoi.
Pas trop. Sinon, les deux animateurs jardiniers ont crié, mais non, ça va. C'est un rythme qui s'adapte vraiment à tout le monde. On a eu tout type de public. Pour peu que des personnes viennent, on a eu des publics de personnes âgées où il faut être un petit peu attentif à tout ce qui est effort physique, à des douleurs dorsales ou ceci, cela. Donc on essaye toujours d'adapter. Tiens, t'as mal à tel endroit, et ben on te propose tel petit atelier. C'est sûr que voilà, on essaye vraiment de veiller au bien-être de tout le monde, de tous les adhérents qui viennent passer du temps avec nous.
Et donc on te retrouve, toi, Tim, et puis...
Et puis Camille. Camille Dumas, qui est le second jardinier de l'asso.
Merci Benoît, merci Tim d'être venu.
Merci de nous avoir reçus.
Voilà, cette campagne donc est à retrouver sur votre site internet lesjardinsnourriciers.com.
.com,
tout simplement. Et puis bah à la prochaine.
À la prochaine. Avec merci plaisir. Baptiste.
Interview.
Okay. The bird.